Pendant l'entre-deux-guerres, l'émigration reste diversifiée par ses origines et sa composition. En plus des Kabyles toujours majoritaires, on voit arriver des hommes issus de la région du nord-ouest oranais. Dès 1945, les travailleurs algériens retrouvent le chemin de la France et ils sont affectés dans les secteurs prioritaires comme les mines, la sidérurgie, les transports, etc. Ils participent à la relance de la machine économique et au maintien de l'équilibre entre campagne, ville moyenne et métropole. L'économie française a ainsi bénéficié d'une main-d'œuvre jeune et robuste. Mais depuis 1947, les Algériens devenus des franco-musulmans possèdent plus de droits sociaux et politiques. Ils s'organisent dans un mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, ou MTLD, qui s'impose en Algérie comme en France.
Pendant la guerre, les liens entre la France et l'Algérie sont complètement coupés. Et ce n'est qu'à partir de 1944, quand la France est libérée, que le général de Gaulle vient s'installer, que les premières migrations reprennent très doucement, puisque une grande partie des Algériens sont embrigadés dans l'armée d'Afrique qui va libérer la Tunisie, puis après l'Italie, puis ensuite la France et aller jusqu'en Allemagne. Bon, on n'insistera pas sur le rôle que cette armée d'Afrique, qui était commandée par le général Juin, a joué, mais c'est pour la première fois depuis fort longtemps que la France remporte une victoire militaire, en tout cas depuis 40. Alors après 40, donc pendant cette période, dans l'émigration, donc on voit, l'émigration n'est pas très nombreuse, ce n'est qu'après 45 qu'elle reprend. Mais 45, elle reprend dans un contexte qui est tout à fait différent, puisque d'abord il y a eu les massacres de mai, juin à Sétif et à Guelma, qui ont profondément traumatisé les Algériens, qui, lorsqu'ils reviennent de la guerre, s'aperçoivent que finalement on les récompense de cette façon. Donc c'était un traumatisme très fort. Mais d'un autre côté, disons, il y a cette demande qui est faite de revenir en France pour, bien sûr, gagner la vie, mais aussi parce que les liens qui durent déjà depuis un demi-siècle sont très forts. Donc l'immigration reprend dans un contexte aussi qui va changer en Algérie, puisque après 1947, les Algériens deviennent des franco-musulmans. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau statut qui régit l'Algérie. Et ils vont posséder plus de droits sociaux et politiques. Ils vont pouvoir avoir plus de liberté pour s'organiser dans les syndicats. Le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques qui va se constituer, le MTLD, est relativement toléré. Et il fonctionne à peu près normalement au début, c'est-à-dire sans qu'il y ait des... Comme il est représenté à l'Assemblée algérienne et il est représenté au Parlement français, donc il y a une période de relative liberté. Mais à partir de 1953, ce mouvement va être déchiré entre deux tendances, et en une tendance qui va suivre Messali Hadj, qui se retrouve en résidence surveillée à Niort en 1952, et une autre tendance qui est celle qui a pris la direction du MTLD, qu'on appelle les centralistes, un comité central. Alors en France, l'immigration va se traduire, enfin les caractères nouveaux que prend l'immigration, c'est que d'une part, les Algériens vont adhérer massivement au syndicat, la CGT, qui se maintient malgré la scission syndicale de 1948. Mais ils s'organisent également dans des cellules du MTLD. Alors cette immigration, elle est quand même très importante. Et il y a quelque chose de nouveau, c'est que jusque-là, l'immigration, c'était une immigration de célibataires et à dominante kabyle. Maintenant, nous avons affaire à une immigration dans laquelle on voit, à partir de 1949-1950, les femmes qui retrouvent leurs époux et les enfants. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire on a affaire à une population qui n'est pas simplement une population travailleuse, de travailleurs, mais de célibataires travailleurs, mais aussi une population de peuplement. Et ça va modifier un peu les caractères de cette immigration, qui va s'implanter donc plus fortement dans le tissu social, dans la vie municipale en France, en même temps que les Algériens, qui cette fois-ci sont très largement inscrits dans le syndicat, vont participer de façon très active à toutes les grèves, toutes les manifestations du mouvement ouvrier. Dans le même temps que se renforce le MTLD, renforce ses liens avec la gauche socialiste et révolutionnaire, en particulier depuis que Messali a été déporté à Niort en 52. Alors voilà donc, il y a cette continuité de cette immigration qui va se renforcer, s'implanter. On est maintenant, ça fait déjà un demi-siècle qu'elle est bien, bien, bien installée. Que d'autre part, il y a des préoccupations nouvelles qui se font. On s'aperçoit par exemple que dans la formation professionnelle, à partir du moment où il y a les femmes, les enfants qui viennent, il y a plus, et que le statut a changé, donc il y a plus de possibilités pour avoir une formation professionnelle beaucoup plus importante que précédemment. C'est-à-dire on voit qu'il y a une qualification, il y a une nouvelle couche qui émerge, en même temps que cette immigration, elle est beaucoup plus, inscrite, intégrée dans la société française. Elle est beaucoup plus cultivée et les liens avec le pays sont également mieux assurés.
وسلام لي على ياسي عمار الوان.
Dans le pays, à partir de 1950, il y a une période de difficulté dans la mesure où l'organisation paramilitaire du MTLD, qui est l'organisation spéciale ou l'OS, a été démantelée. Et il y a, dans le contexte d'une guerre froide qui est très dure, parce qu'il y a la guerre de Corée qui suit la révolution chinoise, il y a une crainte de la part des Européens, en particulier des libéraux, de voir à nouveau l'Afrique du Nord se retrouver comme un bastion de la défense du monde libre. Et donc on voit le maire d'Alger, celui qui deviendra le maire d'Alger, Jacques Chevalier, favoriser, après les élections de 1953 qui vont donner la majorité des sièges au conseil municipal d'Alger, de favoriser une entente avec les centralistes, donc l'appareil central du MTLD, et en vue de, en dehors de toute politique, de gérer les affaires de la ville d'Alger. Alors bien sûr, à partir de ce moment-là, nous avons une situation nouvelle, c'est-à-dire le parti MTLD, qui était un parti qui avait été dans l'héritage, dans la continuité du PPA, va se retrouver, en tout cas au niveau de sa direction, jouer un rôle différent dans la vie sociale et municipale d'Alger, qui est quand même la capitale économique de l'Algérie. Et donc il y a une tendance, cette tendance centraliste va de plus en plus devenir une tendance réformiste. Et elle va essayer de reconstituer, avec en lançant le Congrès national algérien, elle va essayer de refaire, mais dans le cadre de l'Algérie de 1947, c'est-à-dire du statut, de refaire une sorte de nouveau congrès musulman algérien. C'est-à-dire que une amélioration de la condition sociale, municipale, politique des Algériens, mais sans toucher au fondement même du colonialisme, c'est-à-dire sans qu'il y ait ce qui était le programme, le vieux programme de l'ENA-PPA, à savoir une constituante algérienne. Donc la crise du MTLD, en dernière analyse, C'est une crise entre ceux qui veulent rester fidèles au programme de la Constituante, c'est-à-dire de la formation d'une nation algérienne sur les principes de la démocratie, et puis tous les composants qui sont des réformistes ou bien des staliniens ou bien d'autres bords, des administratifs qui veulent élargir les droits des Algériens, mais dans le cadre de l'Algérie française. Donc j'ai parlé tout à l'heure de cette organisation de l'OS. En même temps qu'en Algérie, il s'est passé quelque chose d'important, c'est qu'en 1947, le MTLD se présente aux élections. Et dans le statut de 1947, il y a un double collège. C'est-à-dire qu'il y a les Européens votent pour 60 députés et les musulmans votent pour 60 députés. Donc de ce point de vue, la parité qu'il y a entre musulmans et Européens ne correspond absolument pas à la population, en même temps que cette assemblée algérienne n'a qu'un pouvoir très, très limité. Alors, quand il y a le démantèlement de l'OS, donc il y a une espèce d'inquiétude générale. Et un peu avant, les élections municipales donc de 1947 vont aboutir à quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que le MTLD va transformer ces élections au deuxième collège en un vote, une sorte de référendum pour ou contre la Constituante. Donc j'ai parlé tout à l'heure de cette organisation de l'OS. En même temps qu'en Algérie, il s'est passé quelque chose d'important, c'est qu'en 1947, le MTLD se présente aux élections. Et dans le statut de 1947, il y a un double collège. C'est-à-dire qu'il y a les Européens votent pour 60 députés et les musulmans votent pour 60 députés. Donc de ce point de vue, la parité qu'il y a entre musulmans et Européens ne correspond absolument pas à la population, en même temps que cette assemblée algérienne n'a qu'un pouvoir très, très limité. Alors, quand il y a le démantèlement de l'OS, donc il y a une espèce d'inquiétude générale. Et un peu avant, les élections municipales donc de 1947 vont aboutir à quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que le MTLD va transformer ces élections au deuxième collège en un vote, une sorte de référendum pour ou contre la Constituante. Et là, le résultat est massif, c'est-à-dire qu'il y a la quasi-totalité des Algériens, c'est vraiment un raz-de-marée, qui vote précisément pour le MTLD. Alors à partir de 1947, donc de cette, il y a une inquiétude de voir finalement le MTLD participer aux élections législatives, d'obtenir la majorité à ces élections et de transformer finalement l'Assemblée algérienne un peu à la manière de l'Assemblée constituante, c'est-à-dire de proclamer la souveraineté du peuple algérien. Donc à partir de 1948, le gouverneur général qui était plus ou moins libéral est remplacé par Nejlen, un socialiste dur et pur. Et on peut dire qu'à partir de 1948, il y a une répression quasi permanente, très dure, contre le MTLD, avec des procès innombrables. Et notamment, l'un des épisodes qui commence maintenant à être connu, puisqu'on en parle, on en a parlé au dernier colloque de Charles-Robert Ageron, c'est la fusillade du 14 juillet 1953 où 7 Algériens ont été tués parce qu'ils défilaient dans le défilé qui était organisé par la CGT et le Parti communiste à ce moment-là. Alors bien entendu, tout cela, ça va dans un contexte général qui est quand même l'Indochine, les défaites françaises donc dans cette colonie, le soulèvement qui est en Maroc, le soulèvement qui est en Tunisie. Donc les débats à l'intérieur du MTLD vont devenir de plus en plus durs et l'aile radicale va se former autour de Messali. Et quand le congrès musulman, c'est-à-dire les centralistes, s'oriente vers une espèce de rassemblement avec le Parti communiste algérien, les oulamas, les réformistes, l'UDMA de Ferhat Abbas, etc., eh bien, à ce moment-là, la rupture va s'opérer. Et Messali va en appeler à la base contre la direction et demander la formation d'un congrès extraordinaire. Et donc ce congrès extraordinaire, bien sûr, déplaît aux centralistes, qui est la direction légale, mais qui avait bureaucratisé complètement cet appareil, ce parti. Eh bien, nous voyons en France, la France, très rapidement, va basculer dans le camp du comité de salut public qui est mis en place par Messali Hadj. Et quand on arrive au mois de mars, c'est-à-dire l'anniversaire du PPA qui est célébré chaque année, le 11 mars, eh bien pratiquement la quasi-totalité de la Fédération de France a basculé dans le camp du comité de salut public. Et pendant ce temps-là, en même temps, ça déborde sur l'Algérie. Et on peut dire que 6 mois après, vers Pâques, en Algérie, de plus en plus, des casemas et des régions passent sous la direction du comité de salut public. Alors là, on va arriver à une crise très grave. Et en 1954, c'est la scission. Ou plus exactement, le MTLD est refondé à Ornu, en Belgique, le 14 juillet 1954. 14, 15 et 16 juillet 1954. Et il ouvre comme perspective, cette fois-ci, la préparation de la lutte armée pour le mois de décembre, c'est-à-dire après la session de l'ONU qui devait avoir lieu en novembre. En Algérie, les centralistes, bien sûr, font à leur tour leur congrès, mais à Alger. Et dans ce contexte-là, alors que le MTLD, rénové maintenant, prépare la lutte armée, eh bien, une équipe qui a été liée à un moment avec le comité central et puis ensuite qui s'en est très légèrement détachée, va préparer l'insurrection du 1er novembre. Alors voilà, donc le 1er novembre, il y a la répression qui tombe aussitôt et elle tombe sur le CRUA, mais le CRUA c'était une centaine de militants qui étaient d'ailleurs tous passés par le MTLD. Et elle va tomber essentiellement sur le vieil appareil donc du MTLD, les messalistes. Alors cela dit, dans la mesure où le MTLD, qui va se transformer en mouvement national algérien, s'était préparé à la lutte armée et que les forces françaises de répression sont un peu disséminées partout et qu'elles viennent de subir une défaite en Indochine, donc le corps expéditionnaire n'est pas encore rapatrié, eh bien, ça va donner la possibilité à tout ce vieux parti, qui n'est pas le CRUA, mais qui est formé par les messalistes, d'entrer et d'engager la lutte armée. Donc nous voyons, d'après le journal et d'après les rapports de police, les archives de l'armée sont maintenant ouvertes, nous voyons que toutes les cellules, les endroits où commence la lutte armée, en particulier en Kabylie, sont des anciens fiefs du messalisme. Et donc on peut dire que c'est l'entrée en masse de ce parti dans la lutte armée qui va éviter l'écrasement qui s'est produit en mai 45 et qui va permettre en définitive à créer un dynamisme, une dynamique de la révolution algérienne jusqu'au 20 août 1955 qui va marquer la fin de l'Algérie française. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a plus de possibilité de rester dans le cadre du statut, et puis aussi bien l'UDMA que les administratifs, etc., vont rejoindre l'indépendance. Ferhat Abbas ira en France essayer encore d'arranger, de voir Mendès France, lui demander de lâcher un petit peu plus de lest. Et comme ça ne va pas, il va carrément partir au Caire avec un passeport français. Je ne vais pas prendre expliquer un peu ce qu'a été cette dynamique de la révolution algérienne. Je ne vais pas rester uniquement dans le domaine de l'immigration. Alors, l'immigration, la répression donc immédiate. Tout l'appareil du MTLD se retrouve en prison. Et alors là, puisqu'on parle de torture actuellement, il faut signaler quand même quelque chose. À savoir qu'en 1954, donc à cette époque, en novembre, le gouvernement français est présidé par un Premier ministre qui s'appelle Pierre Mendès-France, un ministre de l'Intérieur qui est François Mitterrand, et un secrétaire d'État à la guerre qui est Jacques Chevalier, le maire d'Alger. Et la répression, donc, dans la nuit du 1er au 2, et qui va se prolonger pendant plus de 10 jours, cette répression frappe un parti qui, officiellement, n'était pas à l'origine des événements du 1er novembre. Et pourtant, ce parti, qui est donc un parti légal, avec des dirigeants qui sont au Parlement français, eh bien, on va arrêter ces dirigeants et ces cadres, et on va les torturer pendant plus de 8 jours. Donc le premier acte de torture en Algérie commence dès le début, et il se fait en plus dans des conditions un peu scandaleuses, puisque c'est un gouvernement dit modéré, c'est-à-dire un gouvernement Mendès-France, François Mitterrand, qui, le premier, commet cette infamie qui est la torture du secrétaire général du MTLD et de membres qui faisaient partie qui étaient un parti tout à fait légal. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'au moment où la répression tombe sur le MTLD, eh bien, se tient le congrès de la Fédération d'éducation nationale du 2, 3, 4 novembre 1954 et qui se prononce à l'unanimité contre la répression et pour la libération de Mess Alliage, y compris d'ailleurs les sections d'enseignants d'Algérie. Ce qui montre bien qu'en définitive, dès le départ, il y avait dans cette organisation de syndicale où toutes les tendances étaient réunies, puisqu'il y avait des trotskistes, des anarchistes, des communistes, des socialistes, etc. Déjà, il y avait la prise de conscience que la guerre, la répression ne réglerait pas le problème algérien et qu'il faudrait donc apporter une perspective tout à fait différente. Donc en 1954, le MNA est fondé. Il sort un journal qui s'appelle La Voix du peuple algérien. Et à cette date, la quasi-totalité de l'immigration algérienne est messaliste. Ça, y compris, quand on prend les textes du FLN, bon, c'est admis. Le 14 juillet 1955, il y a un rassemblement à Vincennes qui est organisé comme traditionnellement par le Parti communiste et la CGT. Et lorsque un orateur algérien demande la parole et qu'on la lui refuse, cette fois-ci, tous les Algériens quittent le rassemblement de Vincennes. Et c'est la première forme de rupture entre le MNA, donc, et d'autre part, le Parti communiste algérien. Alors après le 20 août 1955, il y a, l'insurrection générale en Algérie qui marque la fin de l'Algérie française. Et ça, il y a la démission du gouvernement et des élections législatives qui se font à gauche. C'est-à-dire que le gouvernement de Guy Mollet, qui se met en place avec le soutien de Mendès-France, a pour mission, en quelque sorte, de négocier une solution au problème algérien. Vous savez ce qui s'est passé après. Le 6 février 1956, Guy Mollet va à Alger et il est accueilli par des tomates. Donc le 12 mars, il y a le vote des pouvoirs spéciaux. Le Parlement vote les pouvoirs spéciaux qui donnent tous les moyens, finalement, à l'armée pour résoudre ce problème, en même temps que le contingent est mobilisé. Et c'est la première fois que le contingent, c'est-à-dire les civils, vont entrer dans la guerre d'Algérie avec l'envoi du contingent. Alors, à cette même date, disons, il y a eu une manifestation qui avait été organisée par les messalistes devant le Parlement pour essayer de contrer l'opération qui avait été menée le 6 février. Dans le même temps, il y a la création d'un syndicat, un syndicat indépendant algérien qui s'appelle l'Union syndicale des travailleurs algériens. Alors bon, ce syndicat connaît un développement, un peu rapide au départ, puis la répression tombe sur toute la direction, c'est-à-dire il faudra attendre la fin 56 pour que le syndicat soit développé. Et très rapidement, d'ailleurs, il va se développer, puisque à son premier congrès de juin 1957, il y a une représentation massive des travailleurs algériens dans le syndicat. En même temps que ce syndicat se différencie, disons, du parti politique. C'est-à-dire, là encore, nous avons cette tradition ouvrière qui s'est exprimée dans un syndicat algérien en pleine guerre d'Algérie et qui proclame que finalement les Européens sont des compatriotes, qui proclame que la classe ouvrière algérienne ne se satisfera pas simplement de l'indépendance, mais qu'elle continuera le combat pour l'émancipation de la paysannerie, l'émancipation de la population algérienne, et de créer finalement, de refonder la nation algérienne sur les principes de la démocratie. Ensuite, à partir de 57, 56, 50, surtout 57, le FLN se construit en France. Il est soutenu par les Mendesistes, une grande partie de la presse, le PCF et la CGT qui soutiennent le FLN, puisque le Parti communiste algérien est entré à l'intérieur du FLN. Et nous avons donc le début d'une guerre qui va être d'autant plus aiguë que vous savez qu'en novembre, décembre, il y a l'agression tripartite, c'est-à-dire française, israélienne et anglaise sur Suez. Et donc là, on va rentrer dans une période d'exaspération avec à Alger la bataille d'Alger qui va s'ouvrir. Et nous avons donc, dans cette période-là, une période d'intense répression et d'intense de problèmes, qui va marquer en même temps la fin de la Quatrième République. Alors je ne vais pas reprendre sur la période qui suit. La période qui suit est marquée par, d'une part, le plan Châle et la destruction pratiquement de l'organisation de la LN à l'intérieur, à la fois par les barrages et en même temps par la répression. En France, nous avons une période quasi continue de répression et de brutalité, avec une guerre entre FLN et MNA qui prend un caractère d'exaspération et de violence. Le FLN l'emporte progressivement. Il dispose de moyens et d'une structure surtout qui... Une structure qui n'est pas celle du mouvement nationaliste traditionnel, dans la mesure où il y a une structure indépendante qui coiffe l'organisation, la 7e Wilaya. Et là, je me réfère au livre qui est le mieux informé sur la question, c'est-à-dire le livre de Ali Haroun sur la 7e Wilaya, à savoir qu'il y a une organisation formée de commandos qui viennent de Tunisie ou qui viennent du Maroc, donc qui sont étrangers à l'immigration algérienne et qui vont contrôler, qui vont pratiquement être le sommet, qui vont être au sommet d'un parti où les militants sont chargés simplement de payer des cotisations et de suivre les consignes du FLN. Donc cette période-là va aboutir à l'élimination progressive de toute la direction de l'USTA va être massacrée en 1957. L'USTA ensuite va se recroqueviller simplement dans la région du Nord et très peu dans l'Est. Elle disparaît pratiquement de la région parisienne. Tandis que le FLN, lui, s'implante et que de très nombreux Algériens qui vous soutiennent le FLN ou même quand ils ne le soutiennent pas, finalement acceptent son hégémonie. Alors on arrive de cette façon aux événements que vous connaissez, c'est-à-dire les événements en Algérie où il y a le refus d'une solution que le général de Gaulle lui-même considère que l'autodétermination, c'est uniquement la négociation avec le GPRA qui, entre-temps, s'est constitué à Tunis en 1958. De 1958 à 62, donc, ce sont des négociations pour aboutir à, finalement, aux accords d'Évian, dans lequel il y a une passation des pouvoirs du gouvernement français au GPRA. Et alors je passe sous les. En 1961, sur le massacre des Algériens du 17 octobre
à Paris.
Dont il faudra bien écrire un jour l'histoire très sérieuse et avec les archives complètes, en replaçant bien sûr dans le contexte. Et il y a aussi, donc, en France, la période de l'OAS. Il y a des manifestations incessantes, une violence dans la vie politique à ce moment-là. Et ça aboutit finalement aux accords d'Évian, donc 19 mars, la fin de la guerre d'Algérie.
Et voici le général de Gaulle qui parle.
Je t'ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'immigration ? Bien, l'immigration souffle un peu. Il y a les prisonniers qui sont sortis de prison depuis 1959. C'est le cas en particulier de Messaliage, mais il y a des milliers d'Algériens qui sont libérés. Et l'immigration ressouffle un petit peu. Et elle se prépare et elle va voter massivement pour l'indépendance. Malheureusement, à partir du 19 mars, commence une crise à l'intérieur du GPRA, puis à l'intérieur du FLN. Le GPRA va imploser, puisqu'il entre en contradiction avec l'armée et l'état-major de l'armée des frontières. Donc le GPRA implose. Il y a cette rivalité donc entre l'armée des frontières et d'autre part le GPRA. Le FLN lui-même, toutes les institutions qu'il avait créées au congrès de la Soumam, à savoir le CCE et puis le CNRA, volent en éclats. Et une guerre va s'engager entre l'armée des frontières et d'autre part l'ALN pendant la crise, ce qu'on a appelé la crise de l'été 1962. Alors l'immigration algérienne, eh bien, qui avait soutenu le GPRA, est dissoute par Ben Bella qui s'allie avec l'armée des frontières pour prendre le pouvoir. Donc il n'y a plus de structure pour contrôler l'immigration en France. L'amicale qui se met en place va être désertée par la quasi-totalité des militants, d'autant que la crise du FLN va aboutir aussi en 1963 à une rupture entre des dirigeants comme Aït Ahmed, qui est le dirigeant qui va créer le FFS. Donc à partir de ce moment-là, nous trouvons en France, l'immigration va se dépolitiser, ou en tout cas l'immigration va connaître une période de crise. En tout cas, la structure même de la Wilaya 7 vole en éclats, c'est-à-dire que tout ce qui avait été fait, tout ce racket qui avait été fait sur la population immigrée, toutes ces structures de coercition qui avaient été faites, toute cette guerre entre FLN et MNA, eh bien tout ça disparaît, c'est-à-dire que l'appareil du FLN disparaît complètement en tant qu'appareil représentatif de l'immigration. Et dans le même temps, eh bien, on pensait que la fin de la guerre d'Algérie allait aboutir aussi à la fin de l'immigration, mais c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire à partir de 1962, dès l'été, et surtout à partir du mois de septembre, on voit à nouveau les travailleurs algériens arriver en France, et cette fois-ci de plus en plus, ils sont suivis par les femmes et les enfants. C'est un troisième âge, comme a dit Sayad, de l'immigration qui commence. Une immigration qui va être de plus en plus importante jusqu'en 1974. Et en 1974, Alger et Paris, après ce qui s'est passé sur la nationalisation des hydrocarbures, Alger et Paris décident de mettre fin à l'immigration du travail. Et donc, là, c'est la fin de cette période des années 90, de 1890 à 1974, pendant lequel c'est une immigration essentiellement de travail, bien que j'ai dit que depuis 1950, les familles sont de plus en plus nombreuses avec les enfants. Eh bien, à partir de 1974, l'immigration algérienne entre dans une nouvelle période. C'est-à-dire que l'objectif de 62 à 74, on ne savait pas si on allait retourner, si on allait rester, si on allait retourner. Et donc là, y compris sur le plan, par exemple, des écoles, il y a eu toute une série de programmes qui avaient été faits pour maintenir la langue du pays d'origine, les cultures du pays d'origine, etc. Eh bien, à partir de 1974, c'est une phase tout à fait différente qui change. Ceux qui sont là vont rester. Et donc, le problème, qui sera traité beaucoup plus longuement dans un deuxième ouvrage, ce sera le problème de cette immigration et tous les problèmes de son intégration dans la société sans abandonner, finalement, son histoire longue.
قيم ذا الحباب ذي سلامة يا ويقادي غي حملة ما دل دغزي العمار يا دلو غرغر ذا غروة ما يلا وان دغت تشوف يا اسمح لقولة روح نبني نقل ذاكي
صرخت مدير